Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet! Tony! Trezeguet! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco! Tiro! Gol! Grosso! Grosso! Gol! Gol di Grosso! Prova a girarsi Icardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci prova con il destro!
E la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 17 du podcast Calcio et Pépé, votre podcast 100% foot italien. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors on a un riche programme encore cette semaine, Guillaume, avec des clubs qui sont vraiment dans le dur et puis d'autres qui survolent la Serie A, enfin un en l'occurrence, hein, la Juve qui a déjà le championnat gagné au bout de la 13e journée, et puis d'autres qui sont un peu plus en difficulté. On va dérouler le sommaire rapidement. On va parler donc de la Roma qui est dans la difficulté pour le coup, et de son entraîneur qui est fragilisé avant une semaine ultra importante. On parlera de l'Inter et de ses remplaçants qui réussissent à montrer, ouais, à Spalletti qu'ils peuvent être peut-être plus que des remplaçants, justement, avec des bonnes performances, notamment dans le secteur offensif. On fera un gros focus sur l'Udinese, c'est un focus qu'on veut faire depuis quelques semaines déjà, mais le temps d'avoir un peu toutes les infos et de parler à des gens de l'environnement de ce club fait que, bah voilà, on a retardé un petit peu ce sujet, mais aujourd'hui ça nous semble opportun d'en parler. On fera évidemment un focus sur la Juve et de tous les records. On vient juste de l'évoquer, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais. On parlera de la Fiorentina qui, elle, est en manque de progrès évident, qui n'avance pas d'une journée à l'autre. Et puis on finira, comme d'habitude, par le Dolce, notre pêle-mêle footballistique, avec quelques observations du week-end, et notamment sur le derby de Gênes, qui est, on peut le dire, allez, le plus beau derby en termes de couleur, en tout cas, ouais, dans le stade d'Italie.
Tu peux le dire.
On peut le dire, même s'il y a des Inter Milan, des Lazio Roma qui sont, voilà, qui ont une puissance plus importante et une résonance plus importante, notamment à l'étranger. Ouais. ce derby gène, le derby de la lanterne, est quand même assez remarquable.
Les tifos est encore une fois très beau.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est un derby. Alors c'est comme tu dis, c'est pas le plus éclatant, mais c'est peut-être le plus passionnant à suivre parce que c'est vraiment c'est toujours coloré.
Puis c'est souvent
de la sang.
C'est souvent deux équipes du même niveau en plus, donc c'est assez équilibré.
Et c'est très beau de voir tout ce qui s'est passé cette année malheureusement à Gênes. C'est beau de voir aussi toutes les couleurs. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu de référence à ça. Donc, c'était que du foot et c'est ce qu'on voulait.
Alors, on va donc commencer par la Roma qui a fait un Black Saturday après le Black Friday et toutes les réductions.
Tu l'avais préparé ou pas?
Non, pas du tout. Je viens juste d'y penser en fait. Voilà, le Black Saturday, le blackout du samedi.
Encore
un de plus cette saison. On va quand même rappeler que la Roma a déjà perdu 11 points face à des équipes de bas de tableau, le Chievo, la Spal, l'Udinese et Bologne. Un seul point pris sur 12 possibles face à ces équipes qui sont en grande difficulté cette saison, hormis la Spal, mais qui commencent à glisser tout doucement vers le bas du classement aussi. Aujourd'hui, l'entraîneur de la Roma est fragilisé pour deux raisons. Déjà les mauvais résultats, ce qui est quand même la raison principale. Et puis la deuxième raison, c'est la gestion un peu discutable ou étrange de l'effectif. Il romaniste, le quotidien dédié à la Roma, faisait le compte ce matin, 17 matchs, 17 compositions différentes,
ouais.
Avec 3 schémas tactiques différents depuis le début de la saison. Alors tout n'est pas à mettre évidemment sur le dos de Di Francesco comme à chaque fois. On parlera tout à l'heure des blessés, mais c'est vrai qu'il y a une liste depuis le début de la saison qui est assez inquiétante et ça fait des années que ça dure à la Roma. Mais voilà, encore une défaite sur la pelouse de l'Udinese. J'imagine que t'as été, on va dire, à la fois surpris parce que l'Udinese flirtait avec la zone de relégation, mais quand tu suis la Roma depuis le début de la saison, au final, c'est pas si surprenant que ça.
Exactement, et le problème, c'est toujours que Di Francesco livre des analyses, on va dire, assez pertinentes après le match, mais le problème, c'est qu'il trouve pas les remèdes. Chaque semaine, il déplore le manque d'intensité, le manque de caractère, et malheureusement, chaque semaine, ça se répète. Et comme tu disais, 17 compos différentes en 17 matchs, des schémas tactiques différents, enfin, honnêtement, il a quand même du mal à se trouver. Alors certes, il est blessé, voilà, on en parlera ensuite, mais moi, c'est surtout le manque de caractère et le manque de réaction qui va marcher chaque week-end, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif. On a l'impression qu'il se laisse aller, et à chaque fois, Di Francesco le souligne après le match. Et malheureusement, chaque semaine, ça arrive à Bologne, ça arrive à Udine, ça arrive avec la réception de l'Atalanta, ça arrive souvent. Et la Roma ne trouve pas pour le moment les solutions à ces problèmes.
Alors c'était déjà, je vais devancer déjà les remarques de certains tifosi romanisti, c'est déjà un peu le cas de la saison dernière, malgré Nainggolan et Strootman, on évacue le sujet comme ça d'un seul coup, mais ouais. Ce manque de caractère est flagrant à Rome. On sait que Rome c'est un club un peu spécial, où il fait bon vivre, où on se laisse un peu aller facilement, où tant qu'il y a le soleil, qu'on est bien payé, et qu'en plus c'est super agréable de jouer à la Roma, on est un peu plus relax, un peu plus détaché, un peu moins concentré, un peu moins focus sur le football. Et ça, on le paye au fur et à mesure d'une saison. Et si la Roma ne parvient pas à gagner des titres de manière régulière, c'est aussi pour ce manque de caractère, ce manque d'état d'esprit on ne pourrait pas voir dans un club comme la Juve, par exemple, où chaque semaine est une remise en question. C'est parce qu'on a gagné 3-0 le week-end précédent que ça y est, on est arrivé. L'entraîneur maintient tout le monde sous pression, les dirigeants aussi, et ça c'est pas quelque chose qu'on a à la Roma, et donc du coup il y a des joueurs qui affichent très peu de continuité depuis le début de la saison. On a parlé en bien d'El Shaarawy, mais il reste aussi un peu inconsistant,
oui.
On parlera pas de Cengiz Under, c'est toujours un peu la même chose. Dzeko, c'est quand même très limite depuis le début de la saison. Davide Santon, qui fait un super derby, et puis qui là fait un match très médiocre. Voilà, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Si on ajoute à ça les blessés,
ouais.
Si on ajoute à ça les suspendus, enfin bon, bref, c'est quand même très
ouais.
Très compliqué cette saison.
Le seul qui avait un peu de continuité depuis le derby, j'ai envie de te dire, c'était Pellegrini.
Oui.
C'était Pellegrini qui, avec son but, s'était vraiment débloqué. Et là, malheureusement, il s'est blessé. Donc, c'est vrai qu'en plus, on va dire qu'il y a un peu le manque de chance, mais je sens que tu vas nous parler du préparateur physique de la Roma. Évidemment, c'est pas que de la malchance.
Non, c'est pas que de la malchance. Depuis l'arrivée de Palota officiellement, donc en 2013, puisqu'avant il y avait un autre président américain, qui a ensuite laissé sa place à Palota. La Roma a quand même changé trois fois tout le staff de préparateur physique. Une fois, c'était donc des Italiens qui étaient là depuis un petit moment, qui ont ensuite laissé leur place puisqu'il y avait beaucoup de blessures et que ça agaçait beaucoup James Palota, le président, de voir autant de blessés et que c'était un peu le record en Europe au niveau de la Roma. Il a décidé de mettre ses propres hommes, donc il y avait des Américains, des Canadiens, il y avait notamment le fameux Norman Darcy, une boule de muscles assez hallucinante, prêt pour un film d'horreur, non, un film de guerre, un film de combat, mais toujours dit-il qu'il était à la tête des préparateurs physiques de la Roma. Ça n'a pas marché, ça a rien changé, il y avait toujours autant de blessés, donc toute cette équipe-là est partie l'été dernier, une nouvelle équipe est arrivée, et ça continue, encore et toujours, toujours les mêmes blessures musculaires. Il y a quand même aussi beaucoup de joueurs qui se sont fait les croisés, à la fois dans l'équipe de jeunes, mais aussi dans l'équipe première. On rappelle quand même que Strootman s'est fait deux fois les croisés. On rappelle que Florenzi s'est fait deux fois les croisés, que Luca Pellegrini, le jeune de la Primavera, s'est fait une fois les croisés, une fois la rotule. Là, il y a le petit Bois de la Primavera ce week-end qui s'est fait les croisés également. Voilà, et puis j'en passe et des meilleurs, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui restent sur le flanc un petit moment. Et il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur la préparation, l'entretien. On sait qu'ils passent beaucoup de temps en salle pour prévenir les blessures, etc. Mais il va falloir changer les protocoles puisqu'a priori ça ne marche pas. Manola s'est quand même assez régulièrement blessé. Alors même là, si c'était avec la Grèce, mais bon, est-ce que ça, l'influence de ce qu'il vit à l'entraînement au quotidien à la Roma ne joue pas? De Rossi, c'est déjà quand même deux blessures importantes cette saison. Pellegrini, il a blessé et ratera les deux matchs cette semaine.
Kolarov a été blessé aussi.
Kolarov a été blessé au pied avec une fracture, une petite fracture d'un petit doigt de pied.
Seul qu'on peut enlever dans la liste, c'est peut-être Pastore, qui se blessait déjà avant.
C'est une bonne blague. J'avoue qu'elle est bien glissée en plus, ça m'a fait douter. Mais oui, si on ajoute Pastore, évidemment, mais bon, lui, c'est.
Voilà, c'est clinique. Malheureusement, c'est récurrent. Donc, c'est pas propre à la Roma, ces blessures. Donc.
C'est ça. On a Perotti aussi, qui est blessé depuis le début de la saison, quasiment. Enfin voilà, ça fait quand même.
Ça fait quand même beaucoup,
trop d'ailleurs. C'est pas étonnant qu'il y ait aussi peu de continuité aussi d'une semaine à l'autre. Et surtout que ça touche des joueurs importants, Manolas, De Rossi, Kolarov.
Les joueurs de caractère.
Voilà, les joueurs qui ont un début de caractère et qui pourraient éviter ces blackouts qui sont quand même assez réguliers à la Roma. Alors, l'avenir de Di Francesco, ça risque de passer par les deux matchs de cette semaine.
Deux petits matchs,
hein, la réception du Real Madrid ce mardi soir, et puis juste derrière, on a la réception de l'Inter, qui doit être dimanche soir à 20h45, pour un choc encore en Serie A. En cas de mauvais résultat, selon la Gazzetta dello Sport de ce lundi matin, puisqu'on enregistre ce podcast lundi en fin d'après-midi. En cas de mauvais résultat, Di Francesco pourrait être limogé. Et ce qu'ils avancent aussi, c'est que si Di Francesco venait à être congédié, Monchi pourrait lui démissionner, parce qu'il est très lié à Di Francesco. On sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui explique que quand on est à la tête de la politique sportive du club, si ça ne marche pas, c'est qu'on est responsable. Et donc, c'est qu'il faut partir aussi si l'entraîneur est démis de ses fonctions.
Mais surtout, la question est, d'accord, tu viens de Di Francesco, au vu de ses mauvais résultats, bon, la question aussi se pose pour son successeur.
Ouais.
Est-ce que tu vas chercher Conte, qui attend, mais visiblement, lui a dit qu'il voudrait plutôt repartir, on va dire, en juin, qu'en fin de saison. En plus de ça, il a un coût. Donc, Conte, c'est pas donné. Alors, le problème, c'est que
Conte et son staff, évidemment.
Et Conte, évidemment, et son staff. Donc, c'est un très, très gros coût. Alors, la question, c'est si tu prends pas Conte, tu prends qui? C'est les noms qui circulent. Bon, t'avais l'ancien entraîneur de la Fiorentina, Paulo Sousa.
C'est vraiment celui qui revient le plus dans tous les médias et depuis déjà de longues semaines. On sait qu'il était par exemple à Florence en tribune pour voir le match Fiorentina-Roma il y a une quinzaine de jours de mémoire.
Ouais.
Et c'est le nom qui revient régulièrement.
Après, est-ce que tu penses que les joueurs ont lâché Di Francesco?
C'est compliqué à dire. J'ai pas l'impression. De toute façon, quand il lâche, ça se voit de manière très flagrante. Là, j'ai pas l'impression qu'ils aient lâché. Je vois rien d'hyper flagrant, etc. Je vois des joueurs qui sont pas à leur niveau, clairement, qui manquent de caractère. Mais ça, c'est pas une surprise. Et puis trop de blessés, donc il y a évidemment et puis aussi Di Francesco qui fait des erreurs, la gestion de Kluivert, elle est quand même assez aléatoire, la décision de mettre sur le banc, même s'il est pas exceptionnel depuis le début de la saison, Dzeko et aussi Florenzi, alors que t'es à l'arrache en Serie A pour les reposer pour mardi en Ligue des Champions où t'es déjà presque qualifié, bah c'est aussi quand même un petit peu étrange, puisque s'il y a à la limite un match à sacrifier, même si c'est compliqué de dire ça.
Mais oui, oui,
c'est quand même plus important de gagner en Serie A pour te rapprocher des 4 premières places que le match de mercredi contre le Real.
Et surtout que l'Udinese, c'est pas non plus l'équipe.
Exactement.
C'est pas un ogre de la Serie A, surtout en ce moment. Alors, ils ont changé de coach. D'accord, mais c'est vrai, on a vu plusieurs clubs s'imposer là-bas. C'était assez décevant samedi, mais
d'ailleurs, si tu reprends les stats, Guillaume, de ce match-là, c'est 75% de possession pour la Roma, une vingtaine de tirs contre, je les ai évidemment plus sous les yeux, mais contre 8 pour l'Udinese, qui marque sur son seul, ils font un deuxième tir cadré en fin de match, mais ils marquent sur deux tirs cadrés, ils font 38 centres contre 7,
le but que prend la Roma, c'est la défense. C'est quand même, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que la défense s'ouvre totalement et De Paul fait ce qu'il veut. Ouais. Donc après, on sait que c'est un très bon joueur, mais de là, quand t'es défenseur de la Roma, tu peux pas te permettre de laisser passer un joueur comme ça. Donc, au-delà du contenu, c'est vrai que le résultat est très décevant et malheureusement, pour la Roma, Di Francesco a quasiment plus le droit à l'erreur, parce qu'ils ont perdu trop de matchs en Serie A.
Ouais.
Et à force, ils vont être à la traîne. Alors, heureusement.
Oui, c'est ça.
Heureusement, la Lazio et Milan fait match nul. Du coup, la quatrième place, reste à portée de vue. Mais c'est vrai que, t'es arrivé à un stade de la saison où t'as quasiment déjà plus le droit à l'erreur. Donc, c'est vrai que pour Di Francesco, ça risque d'être long si les mauvais résultats continuent.
La vraie chance qu'ils ont, et tu viens d'en parler, c'est que aujourd'hui, après tous ces mauvais résultats, ils sont qu'à 4 points de la 4ème place. Et ça, c'est un petit miracle aussi. On verra bien ce qui va se passer du coup contre le Real. On verra ce qui se passera aussi contre l'Inter. Je pense que dans notre prochain podcast, on aura un peu la tendance de...
Est-ce qu'il sera encore sur le banc?
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il risque de rester ou est-ce qu'il risque de partir? Mais pour le moment, c'est clair que c'est sans doute l'équipe la plus décevante par rapport aux attentes du début de saison en Serie A cette saison.
Exactement.
Une équipe qui va bien, elle, et qui va donc affronter la Roma dimanche, c'est l'Inter. Et tu souhaites donc nous parler de ce match de ce week-end, contre Frosinone, qui est un peu le souffre-douleur de de toute la Serie A et des grosses équipes, mais soit, avec des choix de Spalletti qui avait fait beaucoup tourner lors de ce match-là, encore une fois. C'est pas la première fois. Et deux joueurs se sont mis en évidence, c'est Keita Baldé et Lautaro Martinez.
C'est ça, plus que l'équipe qui va bien, c'est l'équipe qui va mieux. Parce qu'on se rappelle qu'il y a deux semaines, ils avaient pris une rouste contre Atalanta après un match à sens unique. Et c'est vrai que samedi, on l'a souligné assez souvent avec toi, Johan, c'est surtout le banc cette année qui fait la différence à l'Inter. Parce que pour le moment, Keita n'avait pas encore été très bon, il était même décevant. Et samedi, il s'est mis dans le rythme, il s'est mis dans le moteur de l'Inter, et c'est vrai que ça peut être un atout pour la suite, parce qu'il a marqué un doublé, il fait une passe décisive. Donc on sait que Keita Baldé, c'est un très bon joueur, il s'était un peu perdu à Monaco, et pour le moment, l'Inter, c'était pas trop ça, et en inscrivant un doublé samedi, on l'a même vu comment il a exulté, il s'est totalement libéré. Tu sais, il a crié, il a tenu son maillot, comme s'il se vidait d'une pression, de plein de choses. Et donc honnêtement, ça peut être un très très gros atout pour la suite de la saison de l'Inter. Et Lautaro, on va dire que c'est la recrue de l'été dernier, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup attendu, on a beaucoup parlé.
Et jusque là, c'était un peu mystérieux parce qu'il jouait assez peu. Quand il était aligné, il faisait très peu de différence, où on peinait à voir les qualités qu'on entend de lui depuis des mois, de ce qu'il faisait plutôt en Argentine. Et là, sur ce match-là, alors même si c'est que Frosinone et que ça demandera forcément une confirmation, c'est un début de quelque chose qui ressemble à un joueur, on va dire comme en italien, d'Inter.
Exactement.
Du niveau de l'Inter.
Exactement. Alors, prenons en compte aussi le, voilà, il lui faudra un temps d'adaptation, c'est évident. La Serie A, c'est un championnat différent du sud de l'Argentin, évidemment. Et voilà, on voit, et d'ailleurs, Spalletti a dit après le match, il a dit qu'il aimait beaucoup son envie, son gros caractère, qu'il cherchait toujours le défi physique, qui était, voilà, un bon défi. Il a dit que c'était un défi nerveux, et que ça lui plaisait beaucoup. Et que voilà, cette mentalité qui est très sud-américaine, Spalletti l'adore. Et c'est vrai que, bon, on va sur le terrain, au-delà de la technique qu'il peut avoir, il fait des fois deux, trois déviations en une touche qui sont magnifiques. Mais c'est vrai qu'il a, il a cette mentalité, cette grinta du jamais rien lâcher pour un attaquant. C'est vrai que pas tous les attaquants ont cette mentalité-là, parce que des fois, tu as des attaquants qui ont une mentalité un peu plus latente. Mais lui, il est vraiment, c'est vraiment, grossièrement, j'ai envie de te dire que c'est un bœuf, mais c'est pas dans le bon sens. C'est vraiment quelqu'un qui est robuste, qui fait du mal aux défenseurs, qui les use. Et en plus de ça, il est très technique. Donc c'est vrai que petit à petit, on voit que l'Inter a fait un bel investissement sur lui, parce qu'il a coûté plus de 20 millions d'euros. C'était quand même un gros transfert. Mais voilà, petit à petit, il se met dans le rythme et c'est très intéressant pour la suite, pour faire souffler Icardi.
Est-ce que tu vois Spalletti réussir à aligner ensemble Icardi et Martinez?
C'est la grande question. C'est la question qui se posait cet été. Les médias en parlent souvent. Je pense qu'à terme, c'est ce qui pourrait se passer. Surtout que voilà, Lautaro commence aussi à prendre ses marques en Italie. Donc évidemment qu'à terme, je pense que Spalletti aimerait les aligner. Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que oui, mais c'est vrai qu'Icardi, maintenant, a l'habitude d'être un peu tout seul devant. Il y a toujours Perisic, Politano sur les côtés. À la Keita qui commence à se mettre dans le rythme. Après, voilà, Lautaro, je pense que ça pourrait faire une petite soirée argentin tous les deux. Donc, ça pourrait être un petit côté romantique, comme ça, avec Icardi et Martinez. Mais je pense qu'à terme, Spalletti aimerait les faire jouer ensemble. Après,
la question est, qui est-ce que tu sacrifies?
C'est pour ça.
C'est, est-ce que tu sacrifies Nainggolan, en passant soit en 4-4-2, soit, en restant sur ton 4-2-3-1 avec Lautaro Martinez derrière Icardi, auquel cas bah Nainggolan est sacrifié. Est-ce que tu sacrifies ton jeu délié entre guillemets, tu te rapproches plus de ce que pouvait par exemple faire l'AC Milan de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire en mode arbre de Noël avec Lautaro Martinez Nainggolan derrière Icardi et avec une base de 3 milieux de terrain.
C'est possible, c'est possible. Après moi je pense que cette saison Lautaro va quand même peut-être commencer avec un rôle de remplaçant comme il fait maintenant. Pour le moment, ça marche. Et c'est ce qui manquait à l'Inter ces dernières années. On l'a assez dit. C'est ce qui manque d'ailleurs au Milan AC en ce moment. Et l'Inter a un banc. Et un banc, c'est vital parce que voilà, il peut faire reposer Icardi. Il a quasiment pas joué. Ça fait plusieurs matchs, que Icardi est sur le banc aussi. Ça lui fait du bien de se reposer. L'année dernière, il jouait tous les matchs. Et d'ailleurs, les saisons d'avant aussi. Donc c'est vrai que voilà, l'Inter maintenant a un banc. C'est pas l'équipe peut se permettre de faire tourner. Et honnêtement, si je t'avais dit l'année dernière, Icardi joue pas ce soir, tu m'aurais peut-être pas dit que l'Inter allait gagner. Que maintenant, bah voilà, Spalletti peut faire tourner, peut se permettre de faire jouer une autre équipe, un autre 11. Et c'est hyper important pour l'Inter.
Tu sais, ça me fait un peu penser à l'Inter des années Mancini, qui sur le banc avait un super joueur. Alors, il était parfois titulaire, mais essentiellement sur le banc, puisque t'avais des joueurs comme Ibrahimovic, comme Crespo, qui était un peu devant lui. Mais c'était Julio Cruz.
Exactement.
Qui était joueur vraiment très complet.
El Cardinero.
Voilà, pas le plus élégant du monde, mais qui marquait pas mal de buts, qui était souvent bien placé, à l'état d'esprit irréprochable, qui dépannait quand même pas mal, parce que je crois qu'il a mis une cinquantaine de buts avec l'Inter. C'était quand même un joueur hyper intéressant. Et c'est vrai que là, le fait qu'Icardi ait enfin quelqu'un derrière lui pour le pousser, pour lui permettre de souffler, c'est un atout non négligeable pour l'équipe de Spalletti. Pour revenir à Keita Baldé, j'ai bien aimé la déclaration de Spalletti, surtout la deuxième partie de sa déclaration. Je vais te laisser nous la raconter si tu l'as sous les yeux.
Je l'ai sous les yeux. Alors Spalletti, après le match, a déclaré sur Keita Baldé, il disait qu'il a une grande personnalité. Il a parfois des moments de pause où il perd contact avec l'équipe. Et s'il a sa contre-attaque, il peut devenir un poids.
Voilà, donc là, c'est
partie t'a plu.
Voilà, mais là, c'est la marge de progression que peut avoir aussi Keita Baldé, qui est souligné par Spalletti. En gros, c'est rester focus pendant tout le match, être consistant sur tout le match, faire les efforts aussi également défensifs pour mettre à mal les défenses, à la fois sur les phases sans ballon et les phases avec ballon. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on lui reprochait, dans le sens son son implication générale était reprochée. C'était déjà le cas à la Lazio, hein. C'est le cas à Monaco aussi. On parlait toujours en bien de du fait qu'il arrivait à marquer des buts, à faire des passes décisives, donc il arrivait à être décisif dans des moments clutch et se montrer important offensivement. Mais en même temps, l'équipe payait parfois payait un prix trop important par rapport à son manque d'implication, et ce qui faisait que parfois, bah, l'Inter était plutôt à 10 en phase défensive.
Exactement. Et au-delà de cette analyse sur Keita, on disait qu'ils ont des remplacements, ils ont un banc pour l'attaque. On peut dire qu'ils ont un banc pour le milieu. Ils ont Gagliardini, par exemple, et Borja Valero sur le banc. Donc, que tu peux mettre très bien titulaire. En défense, bah, sur les latéraux, ils ont Ambrosio, ils ont Versaico, ils ont Azamoa, ils ont plusieurs joueurs. Et c'est vraiment ce qui manquait à l'Inter. Et comme tu disais sur Keita Valdé, pour en revenir sur lui, c'est vrai que Spalletti, il sait aussi bien manier la communication. Il sait très bien que Keita va entendre ce qu'il a dit. Et voilà, pour que ça devienne un joueur complet, un joueur total, Keita doit aussi progresser dans l'application défensive et dans les phases sans ballon. Et au-delà de son énorme match, Spalletti aussi a tenu à souligner ses défauts. Et ce sera important pour la suite.
Alors, ensuite, on va revenir à l'Udinese. On l'a évoqué juste avant pour sa victoire face à la Roma. L'Udinese, il est important de faire un point sur ce qu'était en train de devenir le club, parce que c'est un club un peu à part pour plusieurs raisons. La première, c'est que la famille Pozzo, qui possède ce club, l'a acheté en 1986, et aujourd'hui c'est le plus vieux propriétaire de club dans tout le football professionnel italien, ce qui est quand même assez notable, on va dire, on va pas dire remarquable, mais assez notable. Ça fait quand même 32 ans qu'il est à la tête de l'Udinese et qu'il résiste, on va dire ça comme ça. La deuxième chose, c'est que depuis 3-4 saisons, l'Udinese, après avoir connu des périodes où il finissait d'abord dans la première moitié du championnat, du classement, ensuite il réussissait à aller en Coupe d'Europe, même finir quatrième, de faire de bonnes saisons en Serie A, depuis 3 ou 4 ans, ça se complique grandement. L'équipe lutte pour ne pas descendre de manière régulière ces dernières saisons. Je vais reprendre leur classement assez rapidement des dernières saisons. En 2013-2014, c'est 13e. En 2014-2015, 16e. 2015-2016, 17e. 2016-2017, 13e. 2017-2018, 14e. Et donc là, pour le moment, très tristounet. Et puis là, avant le match contre la Roma, ils étaient 17e également. Donc voilà, donc c'est un club qui vit une passe difficile, mais qui s'explique, puisque pour faire simple, les Pozzo pendant un temps ont eu trois clubs. Ils avaient réussi à construire une véritable galaxie avec Grenade en Espagne, avec l'Udinese, le club historique, en Italie, et en rachetant également Watford, qui à l'époque jouait en Championship en D2 anglaise. Les Pozzo traîne quand même quelques casseroles, on va dire ça comme ça. Hein.
Des affaires sombres.
Voilà, des affaires sombres, et pas qu'une. Il y a quand même pas mal d'accusations d'évasion fiscale à la fois en Espagne et en Italie, ce qui l'a aussi contraint à lâcher Grenade assez rapidement ces dernières années. Il avait été suspendu par la Fédération italienne dans les années 90 pour une histoire de match truqué. En Angleterre, il a eu une enquête sur lui, puisqu'il avait fait une fausse lettre d'une banque HSBC lors du rachat de Watford, en disant, cette lettre expliquait que Pozzo avait l'argent pour racheter le club, sauf que cette lettre était un faux. Donc il y avait quand même pas mal de casseroles, hein, à tous les étages. Et aujourd'hui, quand Gianpaolo Pozzo, et donc maintenant c'est son fils Gino, qui est président de Watford et qui s'occupe plus particulièrement du football, quand les Pozzo ont racheté Watford, le but était d'aller très rapidement en Première Ligue. Et pourquoi la Première Ligue était très importante pour la famille Pozzo, c'est que à partir du moment où on est en Première Ligue, on atteint une sphère économique, on va dire XXL, énorme, monstrueuse, avec des droits télé qui te permettent d'avoir une aisance financière importante. Et à partir du moment où cet objectif de monter en Première Ligue, et qui a ensuite été atteint, est arrivé à Watford, l'Udinese, lui, dans le même temps, a baissé de pied, est devenu le club historique, mais dont on s'occupe plus trop. Hein, c'est un peu comme dans un couple, quand on va voir la maîtresse et qu'on s'occupe plus trop de sa femme. Hein, on va dire ça comme ça.
La succursale.
Voilà, c'est devenu la succursale de Watford. Ça vivote, ça glisse au classement depuis 3-4 ans. Et puis, donc, ce que j'ai pu vérifier en regardant un peu du côté de l'Udinese, en contactant quelques personnes, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont recrutés à l'Udinese avec la promesse que si tout se passe bien et qu'ils affichent un niveau satisfaisant, ils finiront par aller à Watford. En gros, que l'Udinese est en train de devenir le tremplin de la famille Pozzo pour envoyer des joueurs à Watford à moindre coût. Puisqu'évidemment, hein, les transferts se feront à moindre coût, puisque voilà, entre deux clubs du même giron, on peut s'arranger un petit peu comme on veut sur les indemnités de transfert et jouer un petit peu à la baisse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même qu'à partir du moment où le club a été racheté, on l'avait vu il y a quand même lors de la saison 2012-2013, donc le club est racheté au début de l'été 2012, lors de l'intersaison qui suit immédiatement, 10 joueurs sont prêtés, un prêt, ça veut même pas transférer, il n'y a pas de dépense d'argent, sont prêtés directement à Watford. Parmi eux, il y avait quand même des joueurs un peu connus en Serie A comme Cassetti, qui avait joué à la Roma. On peut citer aussi Ekstrand, le Suédois, Abdi, le Suisse, quelques bons joueurs comme Vidra, c'est ça, l'attaquant également.
Forestieri
aussi. Voilà, donc il y a toujours eu des passerelles entre les deux clubs, et bizarrement, les passerelles sont quand même beaucoup plus de l'Udinese à Watford que l'inverse. Et j'ai pu m'entretenir également avec Jean-Alain Fanchon, qui est arrivé en 2011 à l'Udinese, qui était un latéral gauche, qui est resté 6 mois à l'Udinese avant d'être prêté à Watford, qui n'est resté également que 6 mois à Watford, et on vous propose d'écouter, puisqu'on a enregistré notre conversation, un extrait de ce que Jean-Alain Fanchon a à nous dire sur le système Udinese-Watford et ce qu'il a vécu lors des années 2011-2012 dans ces deux clubs.
En fait, quand j'ai signé là-bas, quelques mois après, en fait, ils voulaient directement me prêter. Mais moi, en fait, je n'ai juste arrivé, donc je voulais pas me refaire prêter. Je leur ai dit que je préférais rester ici pour savoir leur principe de jeu, vu que c'était un nouveau pays pour moi. Comme ça, voir un peu ce qu'ils attendaient d'un latéral gauche. Donc finalement, je suis resté les 6 mois, et après, c'était prévu que je me fasse prêter l'année qui suit, en fait. Et en fait, ils voulaient d'abord me prêter à Granada, parce qu'ils appartiennent aussi au même président. Et parce qu'en fait, il y avait un joueur, le latéral devait signer à Valence. Finalement, ça s'est pas fait. Donc finalement, j'étais retourné à Udinese, et après, ils m'ont prêté à Watford. Le truc, c'est qu'ils avaient pas mal de joueurs. Donc c'était assez compliqué, ils essayaient de placer les joueurs un peu partout, où ils pouvaient. Mais après, à Watford, c'était compliqué parce que le mec à mon poste était déjà Udinese et qui était prêté à Watford, en fait. Et en gros, c'était vu qu'il était plus âgé que moi, fallait que lui joue pour qu'ils arrivent à le transférer. C'est plus, on va dire un business, en fait. C'est que moi, je sais que quand j'étais, ils ont pris pas mal de joueurs... un peu partout, pas très cher, ou même type de contrat pour les prêter, pour que le joueur en fait éclate dans un club, et les joueurs qui éclataient vraiment, ils retournaient à Udinese pour jouer, et les autres, en fait, ils les vendaient.
Alors Guillaume, on vient d'entendre Jean-Alain Fanchon. L'intégralité de cet entretien est à retrouver en version texte, puisque j'ai retranscrit tout l'entretien tout à l'heure sur le site calcioepp.fr. Je vous mettrai un lien également sur Twitter, sur SoundCloud, etc. Pour retrouver toute l'interview. Là, j'ai mis qu'un extrait. Mais ce qu'il nous raconte quand même, c'est que... Alors, il y a plusieurs choses à retenir, mais une des choses à retenir, c'est qu'il y a tellement de joueurs sous contrat. Il y avait tellement de joueurs sous contrat à l'époque entre Grenade, l'Udinese et Watford, qu'il fallait essayer de les placer un peu partout et où ils pouvaient. Et qu'en gros, lors du même été, lors de l'intersaison 2012... Il y a Daniel Poudil qui joue à Grenade, un latéral gauche qui est prêté à Watford et qui est rejoint un mois plus tard par Jean-Alain Fanchon, latéral gauche, prêté de l'Udinese à Watford, qui accueille donc deux latéraux pour le même poste lors du même été. Et donc clairement, il y avait un des deux joueurs qui n'allait pas jouer.
Exactement, mais honnêtement, c'est vrai que c'est... Alors, l'entretien, je conseille à tout le monde parce qu'il est très intéressant. Honnêtement, on apprend plein de choses. Après, on savait que la galaxie Pozzo était très, on va dire, complexe. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que l'Udinese devient, on l'a dit tout à l'heure, mais la succursale de Watford. Ouais. Moi, je veux bien que tu sois la succursale d'un grand club anglais, à la limite, d'accord, mais voir l'Udinese dans cet état-là et être la simple succursale de Watford, c'est quand même très triste. Et Fanchon le dit, il y a des joueurs qui, quand ils signent à Udine, ils sont programmés pour partir à Watford si les performances sont bonnes. Ouais. Donc en fait, l'Udinese n'est plus qu'un tremplin pour aller en première ligue, qui est une vitrine, on va dire, autre visiblement que celle d'Udine. On va dire c'est une triste fin. Et honnêtement, ce que dit Fanchon, c'est très intéressant. Et l'entretien est à lire sur le site catchopp.fr.
Voilà, on espère que ça vous a un peu plus éclairé sur la situation de l'Udinese. Ne vous étonnez pas si l'été prochain. Allez, on va leur laisser 18 mois encore, parce que c'était ce qui a été promis lorsqu'ils ont signé. S'il y a un ou deux joueurs qui passent de l'Udinese à Watford, ce sera tout à fait normal. Peut-être plus, ou peut-être moins s'ils sont pas jugés assez performants cette saison. Mais voilà.
On le disait en off, il y a quand même quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, où l'Udinese avait quand même le plus de joueurs sous contrat en Europe.
Ouais.
Où c'était plus de 80, c'était quelque chose d'énorme, de beaucoup trop. Et c'est vrai que quand tu vois ce qui est devenu l'Udinese maintenant et que on l'a pas lu, mais la liste des joueurs qui sont passés comme Alan, comme Alexis Sanchez, comme Andanovic, comme Osamoa, comme Inger, comme Benassia, Jankulovski, Zielinski.
Quadrado.
Quadrado, c'est quand même des joueurs qui évoluent à Naples, à la Juve, à Manchester United. Et voir ce qui est devenu l'Udinese aujourd'hui, les performances des dernières années, et voir que maintenant c'est simplement un tremplin pour signer à Watford en première ligue, ça c'est quand même très très triste.
En fait, tant que cette famille Pozzo n'avait que l'Udinese et à gérer, ça allait, puisque tout le système de scouting était mis en place pour ce club là et donc
centralisé.
Voilà, c'était les meilleurs éléments qui arrivaient à l'Udinese. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce sera plus le premier choix dans la tête des dirigeants, et par contre les seconds choix qui ont un bon potentiel, qui peuvent éventuellement se révéler, etc. Notamment des joueurs du secteur défensif qui vont venir apprendre pendant quelques mois ou deux ans ou trois ans en Italie les rudiments du jeu défensif, etc. Pour se parfaire tactiquement, etc. Pourront ensuite, s'ils confirment évidemment, pourront ensuite rejoindre Watford et compléter l'équipe numéro 1 dans l'esprit de Pozzo, puisque c'est aussi celle qui génère le plus d'argent, tout simplement, avec des droits TV énormes. Ils en sont à... S'ils terminent au milieu classement de première ligue, ils auront 120, 130 millions d'euros de droits télé, rien que sur ça, sur la saison. Et évidemment, par rapport à l'Udinese et ce que l'économie du football italien, ça n'a rien à voir.
Mais on peut dire clairement que l'Udinese est le club satellite.
Bien sûr.
Comme aujourd'hui, le club satellite de Watford.
Comme Grenade était le club satellite de l'Udinese à l'époque.
Exactement, exactement.
Bien, après ce football économique.
C'est une magnifique enquête.
Après ce football économique, on va revenir au terrain et un autre club.
Bleu et noir.
Exactement, je cherchais comment le mettre en forme. D'autres Bianconeri, on va dire ça comme ça. Après l'Udinese, la Juve, qui évolue certes à des sphères financières hallucinantes pour la Serie A, mais qui a surtout déjà pratiquement gagné le championnat. Avec 8 points d'avance en 13 journées, ce n'était pas arrivé, un tel écart n'était pas arrivé depuis 1994, sauf avec la Roma de 2000-2001, qui était, allez on va dire ça, même si ça peut heurter certains supporters de la Roma la plus Juventus compatible de l'histoire de la Roma, avec Capello à sa tête, beaucoup de joueurs de caractère, qui ne lâchaient rien, de devoir, qui ne se plaignaient pas, etc., etc., etc.
Et oui, que dire sur la Juve. Alors moi, je l'avais dit tout à l'heure quand on a fait un peu le programme de l'émission, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment banaliser la performance de la Juve, parce que ça reste quand même une grosse perf. Alors certes, l'effectif le permet, évidemment que c'est les grands favoris à leur propre succession. Ils ont quand même 8 points d'avance à la 13e journée, comme tu l'as dit. C'est du jamais vu depuis 2000-2001 la Roma, depuis 94 c'est un record. Chaque année, la Juve repousse les limites. Alors beaucoup disaient que l'arrivée de Ronaldo serait bénéfique pour la Serie A, c'est vrai. Évidemment que les retombées pour la Juve sont énormes. Le championnat a pris voilà un peu d'allant, mais c'est vrai qu'au niveau du gap qui sépare la Juve et les autres, ça a fait qu'amplifier le gap qu'il y a avec le Napoli par exemple ou l'Inter. Et c'est vrai que quand tu as 8 points d'avance dès la 13e journée, alors certes, on n'est pas à la Ligue 1 parce que la Ligue 1 c'est encore plus il y a encore plus d'écart, mais c'est vrai que quand tu vois la Juve, le sentiment de supériorité qu'ils ont, alors c'est pas la plus flamboyante, c'est pas la plus belle, mais c'est peut-être la plus cynique, dans le sens où voilà, quand ils ont besoin, ils accélèrent, ils vont pas jouer à fond pendant 90 minutes, mais 2-3 accélérations suffisent. Ronaldo, on en a parlé il y a 2-3 podcasts, il est déjà parfaitement intégré, il est décisif à quasiment à chaque match. Donc c'est vraiment une machine qui est loin d'être enrayée. Et voilà, moi je tenais à souligner quand même le fait que bah voilà, la Juve est bien partie pour gagner un 8e titre de suite, 8e. Enfin, évidemment, c'est du jamais vu en Italie. Donc on verra bien à l'issue de la saison, parce que voilà, rien n'est encore fait, mais on sait bien que c'est très bien parti. L'objectif principal reste la Ligue des Champions. On l'a souvent dit, mais quand tu vois l'écart qu'ils ont en Serie A avec le Napoli et l'Inter, ça va devenir très compliqué.
Il y a deux choses. La première, c'est que qui pour combler ce gap ? Aujourd'hui, c'est très compliqué de répondre. Avec, on va dire, l'environnement, on peut imaginer que l'Inter, d'ici quelques années, est peut-être le club qui pourra s'en rapprocher le plus, parce qu'il risque d'avoir des moyens économiques assez importants. Et puis, la marque Inter est plus installée que la marque Roma ou la marque Napoli.
Et d'ailleurs, dans une semaine, tu auras Juve Inter.
Et dans pas longtemps, on aura aussi l'arrivée de Marotta. Exactement. À la tête de, entre guillemets, à la tête de, en tout cas, en fonction de dirigeant, voilà, d'homme fort de l'Inter, maintenant, après son passage glorieux, à la Juve. Et puis, la deuxième chose, c'est que, on peine chaque semaine à trouver des sujets sur la Juve. C'est pas faute de regarder les matchs. Alors, on essaie de mettre en avant quelques individualités. Mais c'est vrai que dans le contenu des matchs, on n'a pas de choses visibles, de manière très visible, comme on peut l'avoir à Naples en positif, ou à la Roma, au Milan, de manière assez négative. Mais c'est parce que aujourd'hui, la Juve, et surtout depuis l'arrivée d'Allegri, c'était plus facile de décrire la Juve de Conte que la Juve d'Allegri. La Juve d'Allegri, t'as parlé de cynisme, on peut parler de pragmatisme. C'est pas une équipe qui va avoir un style à proprement parler. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est difficile de ranger Allegri dans un type d'entraîneur. C'est quand même assez délicat parce qu'il est capable d'un peu tout faire, mais de pas le faire à fond. On l'a vu à Milan, on l'a vu là avec la Juve. Donc ça, c'est une, et c'est d'ailleurs ce qui l'oppose. Tu te souviens des batailles qu'il y a eu avec Sacchi en réaction d'après-match. Où Sacchi expliquait, alors lui, dans une vision très dogmatique, où pour lui seul le beau jeu compte, et que la victoire ne peut passer que par le beau jeu, par un jeu offensif, avec des joueurs qui sont impliqués dans toutes les tâches offensives, etc. Et c'est vrai que Allegri a pas ce fonctionnement-là, et c'est pour ça qu'il y avait des clashs quand Sacchi disait, bah oui, la Juve gagne, exactement, mais moi je m'ennuie en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on a un œil extérieur, donc pas un œil de tifoso, les matchs de la Juve sont pas les plus passionnants. C'est pas les matchs où il se passe le plus de choses, où il y a le plus de choses à retenir. Pour autant, ils sont impressionnants. Alors, ils sont impressionnants parce qu'il y a des joueurs qui ont une densité physique qui est monstrueuse. On peut parler de Cristiano Ronaldo, on peut parler des efforts pendant 90 minutes de Mandzukic, on peut parler de l'explosivité sur les côtés d'un Cuadrado, d'un Douglas Costa, on peut parler de l'apport offensif de Cancelo et de Sandro. Voilà. Le problème, c'est que la Juve, les individualités sont tellement supérieures à toutes les autres équipes qu'ils n'ont pas besoin de se transcender collectivement. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que quand vous vous posez devant un match de la Juve, vous n'avez pas l'impression de voir un football extraordinaire où vous dites ils écrasent vraiment leur championnat. C'est parce que l'impression visuelle laissée fait que bah voilà, il domine quasiment en marchant. Et c'est pour ça que la Juve, dans l'esprit de beaucoup de gens, n'est pas un candidat en début d'année à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est parce qu'il y a des clubs qui sont plus impressionnants par leur jeu. On peut citer à l'époque le Bayern de Guardiola, aujourd'hui City de Guardiola, le Liverpool de Klopp, mais le Real et le Barça, évidemment, mais on citait assez rarement instinctivement la Juve dans ces finalistes-là ou dans les vainqueurs probables, parce qu'elle n'a pas un style impressionnant, impactant et vraiment marquant. Pour autant, elle gagne tout sur son passage, elle fait des finales de Ligue des Champions. Quand il faut être sale et gagner salement, bah elle va le faire. S'il faut accélérer que deux fois dans un match et gagner 2-0, bah elle le fera, parce qu'elle a des joueurs pour contrôler le ballon, que ce soit Bonucci en défense, que ce soit Pjanic au milieu de terrain, que ce soit Dybala un cran plus haut. Techniquement, le ballon, quand ils veulent le confisquer, ils peuvent le confisquer, et les autres courent après le ballon. Donc c'est pour ça que la Juve est tellement au-dessus.
Au-delà de ça, voilà, on l'a souvent répété, mais c'est vrai que tous les joueurs qui passent le 10, comme Matuidi qui arrive récemment, t'as le culture de la gagne, t'as le boulot à l'entraînement, t'as l'institution derrière. Alors Marotta est parti, mais il y a toujours Agnelli, il y a toujours Nedved, donc c'est pas un souci. L'institution n'a pas pris un gros coup, donc c'est vrai que la Juve est une machine qui marche très bien. Après, j'ai envie de te dire que moi, je suis impatient de voir les prochains matchs, parce que quand tu regardes les calendriers, donc là, bon, ils vont recevoir Valence en Ligue des Champions. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Mais en Serie A, ils vont à Florence. Donc, on sait que c'est un match toujours très, très chaud.
Oui.
Après, ils reçoivent l'Inter, on l'a dit. Ils vont à Turin. Bah, ils vont à Turin. On va dire qu'ils vont jouer le Torino à Turin. Il y a Juve-Roma, Atalanta-Juve.
Ouais.
Donc, tu vois, d'ici à Noël, tu as des matchs quand même assez compliqués. Après, ils reçoivent la Samp le 29 décembre. Et après, il y a Juve-Milan en Supercoupe. Donc, c'est vrai que, tu vois, d'ici à janvier prochain, il y a quand même des matchs très intéressants. Le Juve-Inter, je suis impatient de le voir, parce que je veux voir s'il a eu... On va dire que l'Inter aujourd'hui, avec le Napoli, on va dire, le rival de la Juve à moindre coût. Mais je suis quand même curieux, tu vois, de voir ce que peut donner l'Inter face à la Juve, parce que c'est vrai que l'Inter, ça n'est pas beaucoup mieux. C'est quand même une équipe qui est en voie de guérison.
Et surtout qu'il y a du caractère.
En plus, ils vont passer leur groupe avec des champions. Normalement, si tout se passe bien, pas beaucoup de monde l'aurait misé. Parce que quand t'as le Barça à Tottenham, c'était pas les grands favoris. Donc c'est vrai que au-delà de voilà du fait que la Juve est évidemment bien partie pour son 8e titre, je suis impatient de voir les prochains matchs, parce que jouer à Florence, c'est pas simple. Le derby, bon, ils le gagnent souvent, mais ça reste quand même un match à part. Jouer l'Inter, jouer la Roma, donc. C'est vrai que le calendrier d'ici à la fin de saison pourra nous dire aussi beaucoup sur ce que peut donner la Juve en championnat.
Alors l'un des prochains adversaires de la Juve, c'est donc la Fiorentina. Et là, on peut commencer par une alerte enlèvement. On recherche les petits Chiesa et Simeone depuis quelques semaines et on a du mal à les trouver. Alors on va commencer par les stats parce qu'elles sont assez marquantes. Seulement 2 buts en 13 matchs pour Chiesa, même chose pour Simeone et surtout, ce qui est plus inquiétant, c'est que Chiesa n'a pas marqué depuis le 22 septembre, donc plus de 2 mois. Et c'est la même chose pour Simeone, plus marqué depuis le 19 septembre. C'est quand même les deux joueurs offensifs principaux de cette équipe, les deux joueurs les plus talentueux aussi, de manière générale, de cet effectif. Sauf que là, ça fait 6 matchs sans victoire, 4 buts inscrits seulement sur les 6 dernières rencontres, donc c'est une attaque vraiment famélique et en panne d'inspiration et de finition. En plus, là, j'ai vu donc le match à Bologne ce week-end, un 0-0 assez...
Pas vraiment... 15h.
Non, mais tu vois, pas trop tristoun. Il y avait quand même des occasions, il se passait des choses, il y avait vraiment des choses intéressantes à regarder, et notamment Bologne qui va quand même mieux, même s'ils prennent assez peu de points, ça va quand même mieux qu'au début de saison. Mais j'ai trouvé que Chiesa, un degré moindre peut-être, et surtout Simeone, était assez peu impliqué. Presque découragé parfois, quand il rate quelque chose, etc. On sent que ça les mine. Alors, on peut le comprendre, hein. 2 mois sans marquer de but quand t'es attaquant, c'est sûr que ça devient compliqué. Mais cette Fiorentina-là me laisse, depuis le début de la saison, toujours un goût d'inachevé.
Oui, mais surtout, comme tu l'as dit, c'est quand même 6 matchs sans victoire. Donc, c'est quand même, ça commence à faire beaucoup. Il y a 2 semaines avant le trem, c'était Frosinone. Donc, c'est vrai qu'ils avaient fait un là-bas alors qu'ils ont mené, ils avaient eu des occasions pour mettre 2-0. Et Pioli avait dit après le match, Pioli, l'entraîneur, avait dit on manque de réalisme, on manque de tranchant. Et c'est vrai que c'est une équipe assez jeune et c'est vrai que ça manque de comment dire, de choses un peu moches. Mais tu vois, un but à l'arrache ou voilà, pour tuer le match. Et c'est vrai que la Fiorentina est une équipe un peu trop gentille. Et c'est vrai qu'au classement, bah, ils commencent à en faire des frais. Alors, comme la Roma, ils ont la chance que devant, ça avance pas beaucoup. Donc, ça, ils restent dans le coup pour une place européenne. Après, voilà, Chiesa, Simeone, ils étaient très attendus. Pour le moment, c'est pas la folie.
Est-ce que le fait qu'ils aient été beaucoup courtisés cet été et qu'ils soient finalement restés n'a pas joué dans leur préparation, on va dire?
Écoute, j'ai envie de te dire, si tu prends le cas de Milinkovic Savic à Lazio, on a tendance à dire que ça peut jouer.
Ouais.
D'ailleurs, je disais la Gazette aujourd'hui, tu vois, on en parlera tout à l'heure, mais qui parlait de Milinkovic Savic, qui disait que évidemment que ça avait joué moralement parlant. Donc oui, pour revenir à Chiesa et Simeone, évidemment que ça peut jouer. Après, est-ce que Chiesa était vraiment très proche de quitter la Fiorentina? Je sais pas. Mais on sait très bien que c'est deux joueurs qui ont des ambitions de grands clubs, qui sont très courtisés. Alors évidemment que ça peut jouer. Après, j'ai vraiment l'impression que, comme tu disais, des fois, ils sont déconnectés. Est-ce que le jeu de Pioli aussi les enthousiasme? Je ne sais pas. C'est vrai que Pioli, voilà, ça fait 6 matchs où il n'y a pas une victoire. Il y a quand même quelques critiques autour de lui. C'est vrai que ça commence à devenir compliqué.
L'effectif est très jeune aussi. Hein. C'est exactement. Délicat aussi de se sortir de passes négatives avec un effectif qui est très très jeune.
Et d'où le fait d'être autant. Hein,
exactement. Oui, exactement. Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés cet été. Alors, un joueur qui réussit un bon début de saison, même s'il a été blessé, c'est Lafont. Il a fait encore un bel arrêt à Bologne, un arrêt décisif sur une tête décroisée d'un joueur de Bologne. Lui répond aux attentes pour le moment. Milinkovic, évidemment, lui répond aux attentes puisque c'est un joueur très intéressant, assez solide défensivement, qui apporte offensivement, qui se projette très bien, qui a une bonne frappe de balle, qui marque 2 buts cette saison et un poteau ce week-end.
T'as Piazza aussi qui est assez décevant. 6 matchs titulaires, 5 sur le banc. Il a marqué 1 but. C'est vrai que 508 minutes de jouer, donc c'est vrai que là aussi il était très attendu. On était impatients de voir le trio Piazza, Chiesa, Simeone.
Normalement, t'as un effectif qui est quand même taillé pour faire autre chose ça. Et d'où aussi une question quand même, c'est que aujourd'hui les gros clubs qui étaient un peu en difficulté sont en phase de reprise, comme l'Inter et le Milan, qui ont laissé des spots disponibles à des équipes diverses et variées ces dernières saisons pour figurer en haut du classement. Si on considère que la Juve est intouchable, que le Napoli va très bien, que la Roma, ça devrait suffire pour finir assez haut dans le classement, que la Lazio a un jeu... la saison était très séduisante, cette saison c'est un peu plus compliqué, mais malgré tout, ils sont quand même 4e du championnat. Que la Talanta est un club qui travaille très bien, lui pour le coup, qui a un vrai style de jeu avec un entraîneur avec une identité très marquée. Quid de la Fiorentina dans tout ça? C'est quelles peuvent être les ambitions à court terme déjà, et puis même à moyen terme?
Les ambitions, je pense que c'est l'Europa League.
Cette saison, oui, mais si tu comptes les 2 clubs de Milan, les 2 clubs de Rome, la Juve et Naples, t'as déjà les 6 spots qui sont occupés.
Exactement, mais je suis d'accord avec toi. Alors après, je te dis, je pense que si la mécanique ne change pas, et là, ils vont recevoir la Juve, donc... ça va pas être simple.
Ouais.
C'est vrai que même pour Pioli, hein, ça peut venir aussi compliqué. Alors on sait que les joueurs sont très attachés à lui par rapport à la malheureusement ce qui s'est passé l'année dernière avec le décès d'Astori. Donc évidemment ce groupe est très soudé, très lié. Mais c'est vrai que Pioli est pas non plus tout réputé pour son jeu spectaculaire ou flamboyant. Alors quand tu lis sur le papier, la Fiorentina a une très belle équipe, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu produit et des résultats, c'est très décevant. Donc on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais même pour Pioli, ça risque de devenir compliqué s'il n'arrive pas à changer la donne.
Je te propose de passer à notre dernière partie, le pêle-mêle footballistique. Là, on met un peu tout et rien. Le dolce.
Le dessert.
Ouais, le dessert, exactement. Est-ce que tu veux commencer par la Lazio? Et tu étais particulièrement ronchon.
oui, j'étais ronchon. Alors, on va commencer par le... Le premier, c'est que Inzaghi, Simone, de son prénom, à part qu'on va avec Filippo, Simone, son frère, est un très bon entraîneur. Les idées sont bonnes. Voilà, c'est un bon entraîneur.
Après, je me permets de préciser que c'était un des jeux les plus séduisants la saison passée en série.
Évidemment, les qualités du coach ne se discutent pas. En revanche, son attitude au bord du terrain, qui est de plus en plus récurrente, devient, irritante. dans le sens où hier, voilà, il y avait Lazio Milan 1, un score assez logique, Lazio égalisé en fin de match, c'est assez mérité, il y a pas à dire. Après, Inzaghi sur son banc, plutôt debout parce qu'il est rarement assis, voilà, il n'a pas arrêté de gesticuler, il n'a pas arrêté de contester. Alors quand je dis des contestations, c'est pas un bras levé, c'est il a enlevé sa veste, il l'a
enlevé et remise aussitôt. Il s'est pris pour Hulk et en fait il a tout de suite remise. C'est une scène assez drôle.
Exactement. Et le point d'orgue de tout ça, c'est qu'à la fin l'arbitre l'expulse parce qu'il part trois fois et il dit non, je ne pars pas. Donc il est en Italie, il dit non va, donc il l'a dit plusieurs fois et il voulait pas partir. Donc le match a été arrêté pendant quelques minutes, enfin quelques minutes, on va dire là une ou deux minutes, le temps que Inzaghi décide de partir. Mais c'est vrai que Inzaghi, alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, il était très critiqué par rapport à son attitude. C'est vrai que c'était même dans la télé, c'est vrai que c'était assez irritant parce que voilà, un coach ça peut protester s'ils sont humains, il y a pas de problème. Après à ce point, c'est d'exagération et malheureusement ça répercute sur des joueurs parce que Immobilier a réclamé au moins 4 ou 5 pénalties. Donc la VAR après a fait son boulot et il les a pas accordés, mais c'est vrai que comment il extrapole ses protestations, ses contestations, ça se répercute sur les joueurs qui contestent aussi eux de plus en plus. Et Immobilier hier a été quasiment un des pires de la Lazio, on l'a plus vu passer du temps à contester les décisions arbitrales. Et ça, Inzaghi, alors j'en ai parlé un peu sur Twitter autour de la Lazio qui me disait c'est vrai qu'il gagne pas souvent un match contre les gros. Il a pris un point contre Juve, Roma, Lazio, Juve, Roma, Inter et Napoli.
Et Milan.
Donc c'est vrai que il peut avoir aussi un petit complexe dans le sens où il se dit j'arrive pas contre les gros. Hier il parlait contre un Milan qui était quand même très décimé. Et c'est vrai que bon, peut-être qu'il est un peu nerveux. Il en a marre qu'on lui ressasse à chaque fois le fait qu'il ne gagne pas les gros matchs. Alors ça peut aussi se traduire voilà par cet excès de voilà, il en fait beaucoup trop. Mais voilà, moi, c'est pas un coup de gueule, mais c'est vrai que je suis assez lassé, parce que c'est dommage, parce que c'est un très, très bon coach. Mais malheureusement, son attitude est vraiment très irritante. Et quand j'ai vu, alors je termine sur ça, mais j'ai vu les joueurs de la Lazio contester parfois à 4-5 sur l'arbitre. Alors quand on voit ce qu'a fait Higuain avant, lors de Milan-Juve, avant la trêve, où il se fait expulser, il mérite ces deux journées. Mais c'est vrai qu'il y a les joueurs de la Lazio quand même très limites parfois. Et ce serait bien aussi que tu vois que l'arbitre des fois aussi n'hésite pas à mettre un ou deux cartons parce qu'hier c'était à l'excès, c'était beaucoup trop.
Alors première petite chose, un petit troll, hein, vu que tu connais ma position sur la VAR. Moi qui pensais que la VAR allait tout régler et notamment empêcher les contestations de joueurs et d'entraîneurs. Bon, on voit depuis la saison, hein, le début de la saison, que ce n'est pas le cas. Ça c'était juste pour le petit troll. Et deuxième chose, c'est vrai que Simone Inzaghi est particulièrement lassant, notamment en conférence de presse, où à chaque fois que la Lazio ne gagne pas, c'est de la faute de l'arbitre. C'est devenu récurrent, et ça déteint même sur certains tifosi. Je connais un Italien supporter de la Lazio, si tu le suis sur les réseaux sociaux, après des matchs de la Lazio, si la Lazio ne gagne pas, il ne parle pas du match, il parle de l'arbitre qui a volé la Lazio, que ça commence à bien faire, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu usant. Moi je sais que les entraîneurs qui ne font que parler de l'arbitrage, ça m'horripile et c'est insupportable. Quel que soit le club, quel que soit même le championnat, voilà, etc. Et c'est vrai que Simone Inzaghi est en train un peu de passer à côté, parce que on le disait tout à l'heure quand on évoquait ce fait, c'est que on a vu des rumeurs en cas de départ d'Allegri l'été dernier, oui, que Simone Inzaghi était sur la shortlist, etc. Sauf qu'un comportement de ce genre peut t'empêcher d'accéder à un banc aussi prestigieux que la Juve, puisque un entraîneur qui se comporte comme ça à la Juve, ce n'est pas possible.
Exactement. Alors Allegri, certes, a parfois des attitudes assez exubérantes,
mais pas à ce point-là.
Et surtout, c'est auprès de ses joueurs, oui, qui s'énervent. Voilà, ils s'énervent parce que des fois, ils se relaxent trop à la fin. Et c'est uniquement par rapport à ses joueurs. C'est très rare qu'Allegri conteste ou tu le vois, voilà, faire des grands gestes après l'arbitre. Voilà, à force, Inzaghi devient quasiment caricatural parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop. Moi, je comprends, hein, des fois, moi aussi, je conteste les éditions arbitrales devant ma télé ou je suis énervé, d'accord. Mais quand t'es entraîneur, je veux bien, mais à ce point-là, hier, honnêtement, c'était vraiment c'était vraiment voilà caricatural, c'était beaucoup trop. On le voyait gesticuler sur le bord de la pelouse. Il y a un moment une fois, je crois sur Suzo qui sifflait, vous le voyez, il rentre quasiment sur la pelouse pour protester. Au bout d'un moment, non, arrête, t'es un très bon coach. Attention, voilà. Après, voilà, je sais que les gens vont dire oui, alors Guillaume, il sympathise le Milan. Non, c'est pas la question.
Et ils auront bien raison.
Ils auraient raison, mais évidemment, mais c'est un secret pour personne. Mais j'adore l'entraîneur, j'adore ses idées. Pour moi, c'est un des meilleurs coachs italiens, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais juste que, voilà, au niveau de son comportement, voilà, maintenant, beaucoup l'appellent Piangina, hein, pleureuse en Italie. Donc, c'est vrai que ce serait dommage que le bon coach qu'il est, prenne un peu, un plomb dans l'aile par rapport à son attitude pour son avenir. C'est vrai que ça peut le porter préjudice pour si un jour il devait signer dans un grand club.
Autre sujet de notre pêle-mêle footballistique, Gervinho, que tu as interviewé il y a quoi, il y a un mois à peu près
Un peu plus, un mois et demi.
Bon début de saison, 5 buts en 9 matchs. voilà, tout roule pour Gervinho en Serie A.
Toujours aussi rapide, surtout.
C'est ça.
Hein. Toujours aussi rapide. Et non, on est content parce que Gervinho, il a fait quand même une pige en Chine. Donc, tu pouvais douter de son niveau.
Il avait été gravement blessé, d'ailleurs, aussi.
Exactement. Donc, tu vois, quand il est revenu, c'était une inconnue. Parme, qui est quand même sixième. Oui. Donc, c'est une très grosse surprise.
Énorme surprise.
Ils ont quand même fait 3 montées de suite. C'est quand même énorme. Et Gervinho, forcément, est l'homme fort. Dimanche, il y a un Milan Parme qui va être très sympa, 5e contre le 6e. Mais c'est vrai que Gervinho, elle a 5 buts en 9 matchs. Ça devient presque aussi caricatural, mais c'est vrai que quand tu vas partir en contre, tu sais qu'il est tellement rapide que même les défenseurs eux-mêmes reculent, et ça serait bien qu'ils n'arriveront pas à suivre. Et voilà, moi, quand je l'avais interviewé pour Eurosport, c'est vrai que je l'avais senti très épanoui. Il m'avait dit qu'il était très heureux d'être revenu en Italie. Il m'avait dit que son passage à la Roma lui avait fait comprendre ce que représentait le foot en Italie, l'énorme place que le foot avait pour les supporters, pour les tifosi. Donc c'est vrai qu'on le sent épanoui, on le sent heureux. Lui, il m'avait assuré qu'il était très bien à Parme, que ça se passait très bien. Donc honnêtement, non, on est content pour lui parce que c'est un très bon joueur, c'est un homme très sympa. Donc on va espérer que ça continue, mais Parme et Gervinho qui réussissent un très bon début de saison. On espère que ça va continuer pour eux parce que c'est vraiment la belle histoire des débuts d'année.
Et donc, cette victoire ce week-end, c'était contre Sassuolo. Et pour revenir sur le podcast précédent avec Christophe Cucci qui nous accompagnait la semaine passée, on avait parlé du jeu de Sassuolo et on a encore vu un Sassuolo un peu naïf. C'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que le jeu de Zerbi est poussé à l'extrême, parfois du coup un peu caricatural aussi. Et si vous prenez le but de Gervinho, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a 6 joueurs qui sortent ensemble en même temps pour aller presser les défenseurs et les milieux de terrain de Parme, sauf que le ballon arrive à Bruno Alves, qui met une énorme savate de 50 mètres sur la tête d'un coéquipier, et ça fait un 3 contre 3 juste avec une savate envoyée de 50 mètres devant parce que les ailes sont totalement découvertes et que les 3 défenseurs centraux se retrouvent tout seuls face à 3 attaquants. Et donc quand vous reculez et que vous avez la vitesse de Gervinho, vous faites avoir. Donc c'est vrai que ce qu'on disait avec Christophe la dernière fois, c'est que ça serait bien d'apporter dans cette belle idée, dans cette riche idée qui est très appréciable pour tout le monde, d'apporter quand même une dose de pragmatisme, de un peu moins romantique, quoi, vraiment, où parfois il faut faire aussi un petit peu attention, faire le dos rond et éviter d'ouvrir des brèches béantes pour l'adversaire.
En parlant de romantisme, est-ce qu'on parlerait pas du derby de Gênes?
Oh, quelle transition, c'est incroyable, hein. On dirait une passe laser de Coutinho, c'est fabuleux.
Voilà, c'est cadeau.
Et je prends bien volontiers, surtout à un mois de Noël, je prends un cadeau comme ça.
Exactement.
Alors le derby de Gênes, match nul un partout et 2 équipes qui laissent une impression vraiment différente. Le Genoa sort vainqueur au point, même si c'est pas très joli, hein, de dire ça comme ça, surtout qu'il y a un match nul et qu'on n'est pas en boxe, mais auteur d'une bonne prestation et surtout bien plus de détermination, de course, de volume d'activité que la Samp.
Oui, le Genoa, comme tu l'as dit, voilà, si on parle un peu de boxe, ils ont gagné au point dans le sens où ils ont beaucoup mieux joué, ils ont été beaucoup plus agressifs. Je lisais un peu les gens tout à l'heure en faisant une revue de presse, c'est vrai que voilà, quasiment tous les médias ou tous les quotidiens s'accordaient à dire que Genoa aurait mérité mieux. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir la Samp aussi décevante. Ça fait quelques matchs où c'est compliqué, 5 matchs sans victoire. Donc c'est vrai que hier, moi aussi je l'ai trouvé aussi assez naïf, dans le sens où hein, plusieurs fois ils se sont fait avoir de la profondeur, donc que dans leur dos, dans le dos des défenseurs. Donc c'est vrai qu'au point, le Genoa aurait mérité de gagner. Après voilà, un derby, voilà, c'est un match à part. C'est un qui, voilà, que le Genoa peuvent en sortir déçus. Après, il y a du mieux. Juric peut être content parce que voilà, lui, on sait qu'il aime bien les équipes assez agressives avec du cœur. Est-ce que ça suffira pour voilà, avoir une meilleure deuxième partie de saison? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'hier, alors que la Samp, on est habitué avec Jean-Paulo à avoir un bon jeu, des triangles, des combinaisons. C'est vrai que voilà, c'est un peu plus décevant et la mécanique depuis quelques matchs a enrayé. Donc, au-delà de ça, au-delà des deux performances, c'est un beau derby. Alors, mon derby, je dois t'avouer que c'est un des matchs que j'attends le plus
moi aussi.
Cette saison. C'est ouais, vrai. Parce que c'est vraiment un derby. Voilà, déjà le Stadio Mara, c'est magnifique. Ouais. C'est un derby, c'est un stade assez antique. Le Genoa qui est le plus vieux club italien d'ailleurs.
Même si cette pelouse est quand même régulièrement inondée, hein, on oui, va pas s'en plaindre.
D'ailleurs, il y a souvent tu pourrais demander au Napoli.
C'est ça.
Exactement. Mais c'est vrai que non, au-delà de ça, c'est un derby que j'attends chaque année. Alors, comme tu l'as dit, les derbies, il y a celui de Turin, il y a celui de Milan, il y en a d'autres, il y a celui de Rome qui sont attendus aussi. Mais c'est vrai que celui de Genoa, il y a un côté romantique, un côté passionnel, il y a un côté coloré, où les deux courbes à chaque fois apportent beaucoup, beaucoup de couleurs au tifo. Hier, les drapeaux de la courbe de la Samp était magnifique. Le Genoa, pareil, ils avaient fait un superbe tifo. Donc c'est vrai que chaque année, c'est un match que j'attends. Je n'ai pas été déçu hier. Et voilà, on était un peu déçu de la Samp. Mais bon, la Samp, on a vu un beau match et on était content pour clôturer ce week-end de Serie A.
Alors, il est temps de nous arrêter. Non, il est temps de rappeler le programme de la prochaine journée, la 14e de Serie A. Alors, on commence.
Il y a des matchs sympas.
Il y a des matchs sympas. Samedi 15h, Spal Empoli. Mmh. À affiche de Serie B la saison passée, donc. À 18h, Fiorentina Juve. À oui. 20h30, Sampdoria Bologne. Le dimanche à 12h30, Milan Parme. Gervinho jouera face à une défense de Milan qui est encore un petit peu décimée.
Un peu, beaucoup.
J'ai hâte de voir le duel vitesse Gervinho Zapata. À 15h, Frosinone Cagliari, Sassuolo Udinese, Torino Genoa. À 18h, ouais. Chievo Lazio. Le Chievo qui a pris un point comme à Naples. Hein. Ça, c'était au niveau des pronostics, c'était quand même pas gagné. Et puis, le choc de la journée, Roma-Inter, le dimanche 2 décembre à 20h30, avant un Atalanta-Napoli, le lundi.
Lundi?
Ouais, oui, lundi à 20h30 également. Précisons quand même qu'à chaque journée jusqu'à Noël, il y aura un choc, on va vous le dire rapidement ici. La semaine suivante, lors de la 15e journée, il y aura donc un alléchant Juve-Inter le vendredi 7 décembre.
L'Inter, juste en passant, ils ont quand même 3 matchs à Tottenham, à Rome et à Turin contre la Juve.
Exactement. Ensuite, lors de la 16e journée, derby de Turin, le samedi 15 décembre à 20h30, Torino-Juve. Ensuite, 17e journée. La programmation n'a pas encore été faite, mais c'est à 3 jours de Noël, Juve-Roma. Pas vilain non plus. Et puis, on a donc le 26 décembre, lendemain de Noël, le Boxing Day débarque en Italie, avec un alléchant Inter-Napoli. Donc voilà, jusqu'à Noël, le jour après Noël, à chaque journée son choc.
Donc il va falloir laisser un peu de place à Noël, c'est ça que tu es en train de me dire.
Exactement. Bon, écoute, il est temps de refermer ce 17e épisode du podcast Calcio et Pépé. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec les alias Guillaume MP et Johan Crochet. Et puis donc, n'oubliez pas d'aller lire l'interview complète de Jean-Alain Fanchon sur calcioepp.fr. On vous met le lien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, les petites étoiles sur iTunes et compagnie, ça nous aide. Commenter et les étoiles, ça nous aide à nous faire connaître. Merci Guillaume, bonne semaine footballistique à tout le monde et à la semaine prochaine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.